parler d'une deuxième partie de cette ecclésiologie. On va lire dans Actes 2, les versets 41 et 47, qui sont pour moi un peu les versets charnières pour la question de méthodologie de l'Église. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église? Parce que je l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui on commence à faire de plus en plus n'importe quoi dans les Églises. Mais la Bible nous dit quoi faire. Donc on va s'appuyer tout simplement sur la parole et pas sur nos expériences ou ce qu'on a envie de faire. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Donc, tout le monde trouve. Ceux qui acceptèrent, alors là on est à la Pentecôte, et un peu plus loin que la Pentecôte, mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous imaginez si ça nous arrive à Étréchy? 3000 personnes en plus? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça, c'est charnière, ça. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. C'est bien précisé, par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, c'est marqué. Chaque jour. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La semaine dernière, on avait vu que cette Église qui est appelée hors d'eux était l'intention en fait de Dieu. C'est pas moi qui ai décidé un jour, tiens, si on allait se réunir en Église, c'est Dieu qui a décidé ça. Et on avait vu que cette Église, c'est un corps. Un corps de Christ, et Christ est le chef. On a vu aussi que c'est une famille, avec ses problèmes, avec ses joies, ses problèmes aussi. C'est un peuple aussi, le peuple de Dieu. On avait vu qu'elle était organisée, et qu'on ne vient pas à l'Église en faisant n'importe quoi. Elle est organisée, elle est autonome, elle est séparée de l'État, parce qu'on ne veut pas qu'eux nous demandent des choses après, tout simplement. Elle n'est pas œcuménique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se rassembler avec n'importe qui. On veut voir la confession de foi, parce que sinon on va se disputer. Ou par contre, on ne sera peut-être pas d'accord du tout avec ce que font, par exemple, des catholiques ou des musulmans ou je ne sais pas quoi. On veut s'intéresser aujourd'hui un peu plus au fonctionnement. On parle souvent de méthodologie, bien qu'il faudrait aller un peu plus loin dans la méthodologie. Mais comment se passe un peu la vie d'Église? Et on a là déjà des pistes, en fait, dans ce qu'on vient de lire. On va lire beaucoup d'autres versets au fur et à mesure. Première chose qu'on peut s'intéresser, c'est le modèle biblique de la vie d'Église. On a vu dans Actes 2, 42, le chrétien doit persévérer. Ça veut dire quoi, persévérer?
Continuer toujours sur la même voie.
Ouais, tranquillement.
Ne pas abandonner.
Donc ça veut dire qu'il y a peut-être persévéré. Il y a une idée aussi de faire un petit sacrifice, là. Généralement, quand on persévère, c'est difficile. Mais le Seigneur nous dit... Nous devons tous persévérer, pas que le pasteur. Lui, il doit, mais vous aussi. Et il dit quatre choses. Le premier, c'est dans l'enseignement. Il doit persévérer dans l'enseignement. Ça veut dire qu'il doit être persévérant dans le culte, dans les études bibliques, dans le culte personnel qu'il a, lui, comme on a vu tout à l'heure. Et ce n'est pas une église à la carte, parce que c'est ce qu'on est en train de faire un peu aujourd'hui. C'est tout ça en même temps. Le Seigneur ne nous propose pas que de temps en temps tu peux aller au culte, de temps en temps tu vas aux études bibliques, de temps en temps tu fais ton culte personnel. Il veut qu'on fasse tout ça en même temps, normalement. Quelqu'un écrivait par rapport à ce manque d'enseignement souvent qu'il y a dans l'Église, les problèmes qui surviennent constamment dans l'Église sont dus à l'ignorance. Bien souvent, les Églises se divisent, se tapent la tête les uns sur les autres parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et l'auteur dit « Osée a écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et donc, quand on ne connaît pas la parole, on commence à faire ce qu'on a envie. On crée des religions, on crée des sectes, etc. C'est là un vrai problème dans l'Église aujourd'hui. Une enquête du magazine Time, donc c'est quelque chose de frais, auprès de membres d'Église, a révélé que certains chrétiens croyaient certaines choses. Ils ont fait une enquête, et voilà les réponses qu'ils ont eues. Alors, par exemple, certains croyaient que Sodome et Gomorre étaient des amants. C'est authentique, C'est des chrétiens. Que Jésus a été baptisé par Moïse. Que Ève a été créée d'une pomme. Là, franchement, mais c'est vrai, c'est ça le problème. Que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luther et Jean. Vous connaissez Luther, c'est un réformateur. Que Jézabel était l'âne d'Akab, par exemple, etc., etc. Mais si je posais deux, trois questions ici, on rigole, peut-être qu'on ne répondrait pas juste non plus. La faillite, dit l'auteur, de l'Église n'est pas due à une faiblesse de programme, parce qu'on veut toujours faire des programmes, et elle est due tout simplement à une faiblesse de l'enseignement. Les églises ont de superbes programmes, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas les programmes, c'est qu'on apprenne à connaître richement, comme on a vu tout à l'heure dans Colossiens, la parole de Dieu, parce qu'elle va nous pénétrer et elle va nous faire du bien, et au moins, on ne dira pas, on ne fera pas n'importe quoi. Mais ça, moi, je ne peux pas vous forcer à le faire. C'est à vous de décider de le faire. Et vous verrez que plus vous connaissez le Seigneur, et plus ça sera utile dans votre vie. Une deuxième chose dans laquelle il faut persévérer, c'est la communion fraternelle. L'amour les uns pour les autres. C'est la vie de l'Église, parce que je ne peux pas avoir une communion fraternelle si je ne vois pas mes frères et sœurs. C'est les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. On dispute aussi des fois, hein, ça fait partie de la communion fraternelle, avec tous les pardons qu'il y a derrière. Savoir s'inviter aussi les uns les autres. Ce n'est pas forcément après un repas. Hein, parce que souvent, on n'aime pas inviter, on ne connaît pas, on a peur, etc. On peut boire un café la première fois, histoire de voir à quoi il ressemble l'autre en face. Mais il y a quand même une idée de communion fraternelle. Et il dit persévérer, et il dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours simple d'être les uns avec les autres. Mais il faut persévérer. Troisième chose, c'est persévérer dans la fraction du pain. C'est évidemment ce moment de scène que nous avons régulièrement, où nous souvenons tout simplement de la grâce. Le Seigneur permet qu'on ait ces moments pour qu'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous, parce que notre mémoire, elle oublie très vite. Et quand on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, ça stimule cette mémoire, ça stimule aussi notre reconnaissance, et forcément ça me propulse dans ma vie chrétienne, normalement. Et puis persévérer dans la prière, je pense qu'il y a là deux choses. D'abord individuellement, prendre du temps à prier. Tout à l'heure, Robert disait qu'il chantait le matin. Je cherchais la personne justement qui faisait du bruit le matin à 6h. Maintenant, j'ai trouvé. Je chanterai avec toi la prochaine fois. Mais c'est un moment où on a une relation avec Dieu authentique. On peut prier tous les jours, à chaque moment. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter aussi et remettre nos fardeaux, nos joies, etc. Mais c'est aussi une prière qui doit être collective. Si je ne prie pas individuellement, je n'ai pas compris la nécessité de prier collectivement. On a besoin d'être ensemble, on ne peut pas être là tout le temps, je le sais. Mais ce que je crois, moi, au bout, et c'est ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que la prière est efficace. On prie depuis 3 ans, au départ avec un tout petit groupe pour cette église, pour qu'elle grandisse. Elle a grandi. Et imaginez si tout le monde se met à prier maintenant, ce qui va se passer. Et pas que pour grandir l'église, parce que ça, c'est peut-être notre orgueil, mais pour d'autres choses, on a des besoins, on a un tas de choses pour lesquelles nous avons besoin de prier. Mais si on prie en se disant, oh, de toute façon, Dieu, il ne fera rien. Arrêtez de prier, ça ne sert à rien. Moi, je prie parce que je crois que Dieu, selon sa volonté, fera certaines choses. Et moi, je les vois tous les jours. Voilà dans les domaines où le chrétien doit persévérer. Et ça, je ne sortirai jamais de l'Église. On pourrait juste faire l'Église avec ça. Persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. On n'aurait pas besoin de groupe de jeunes, on n'aurait besoin de rien. On peut les mettre, mais ça, c'est la base. Quand on s'intéresse aux objectifs du culte, par exemple, évidemment, vous n'êtes pas là pour moi. J'imagine. Vous êtes là pour célébrer Dieu. Et on l'a vu tout à l'heure par le chant, par la louange, par l'offrande, par le témoignage, par mille et une manières. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on vient célébrer Dieu. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas le célébrer dans la semaine, mais là, on est tous ensemble, on est tous d'accord pour célébrer notre Dieu. C'est une libre participation aussi des croyants. Dans 1 Corinthiens 14, 26, il y a une petite photo, on va dire, de ce qui se passait dans l'Église primitive, avec certaines choses qui ont disparu. Mais que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Quelqu'un peut proposer un cantique, une instruction, quelqu'un peut proposer un petit témoignage, une révélation. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui parce que nous avons toute la parole. Une langue, ça aussi, ça a disparu. Une interprétation, ça fait partie des langues. Mais que tout se fasse pour l'édification. Ce qu'on voit là, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui parlait seulement et tout le monde qui écoutait. Il y avait une participation, dans la mesure qu'on peut, évidemment. C'est tout le monde commence à parler, on n'a pas fini. Mais on participe. L'idée, c'est que quand je vais au culte, je ne me dis pas, le pasteur et le président, ils ont tout préparé. Voilà, je m'assois, j'écoute, je m'en vais. Si vous avez un chant, il y a eu l'occasion de proposer, c'est toujours Claude qui propose. Quelqu'un d'autre propose une fois. Enfin, je ne veux pas que tu proposes, on est bien d'accord. Pas maintenant. Il y a un temps pour tout. Mais venez avec un cantique. Venez avec un témoignage, éventuellement, quelque chose que le Seigneur a fait pour vous dans la semaine. Ça n'a pas besoin d'être un miracle. Quelque chose de simple, des fois. Ou un passage qui vous a marqué. Simplement le lire. Ça peut être très édifiant les uns pour les autres. Mais chacun apporte, et j'aimerais ça au fur et à mesure, sa petite touche dans le culte. Après, quand on sera 200... On pourra moins le faire, on est bien d'accord, mais profitons-en. Je suis optimiste, c'est bien, j'ai la foi, moi. Donc, libre participation, une consécration aussi totale à Dieu. Dans Romains 12, 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Je consacre ma vie à Dieu, et ça, c'est déjà le début du culte aussi, quelque part. Ce n'est pas le dimanche matin seulement le culte, mais ma façon de vivre, ma consécration vis-à-vis de Dieu, est aussi une forme de culte que je peux rendre à Dieu au quotidien, et d'autant plus le dimanche matin, quand on se rencontre. Quand on parle de méthodologie, hein, y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, je n'ai vraiment pas le temps, mais elle peut varier, parce qu'il y a des cultures, il y a des façons de faire qui sont différentes. Tant qu'il y a la base, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Tant que ça ne déborde pas non plus, ce n'est pas le problème. Mais chaque église décide de ce qu'elle fait dans son église. Non, moi, je n'ai pas à aller voir chez les autres. Quelqu'un disait, par rapport au culte, hein, « Si le culte cherche à adorer le Dieu qui sauve par la grâce seule, les chrétiens seront édifiés et les non-chrétiens interpellés. » Le but de l'église, c'est de nous édifier, de repartir encouragés. Un autre disait, en parlant du secret du culte, « Le secret du culte public est la piété privée. Le culte est frais. » vivant, lorsqu'il vient de la part d'hommes qui adorent Dieu dans leur vie privée. Si j'ai aucune relation avec Dieu, que je viens le dimanche matin, c'est fade, le culte, il n'y a rien, quoi, en fait. Mais s'il y a des gens qui ont vraiment une relation avec Dieu et qui viennent chanter, louer le Seigneur, alors ça change complètement l'Église, évidemment, et ce moment de culte. Un autre écrivait, en parlant du but du culte, si vous adorez Dieu parce que c'est payant, c'est-à-dire que vous obtiendrez quelque chose, ce ne sera pas payant. Vous serez toujours déçu. Si vous voulez venir à l'église parce que vous avez besoin de quelque chose, laissez tomber, ce n'est pas ça que Dieu veut. Mon but, c'est, l'auteur dit, mon but, c'est Dieu lui-même, pas la joie ou la paix, pas même la bénédiction, mais lui-même, mon Dieu uniquement. Je ne viens pas à l'église parce que je veux être béni, parce que je veux si de la part de Dieu. Je viens simplement pour la personne de Dieu. Et juste à y réfléchir, qui est Dieu, y a du boulot, hein. Mais simplement pour lui, pour le louer, pour le célébrer. Donc le culte ne correspond pas seulement au dimanche, on l'a compris, on peut célébrer Dieu durant la semaine, et surtout par une vie qui est tout simplement consacrée. Quand on s'intéresse à la bonne tenue dans l'Église, dans 1 Corinthiens 14, 33, il est dit que Dieu est un Dieu de désordre. C'est bien, il y a quand même qui me suit, c'est bien. Dieu est un Dieu de l'ordre. On aime bien le crier. Attention à ce qui suit. Dans le contexte, il faut savoir qu'il semblerait qu'il y avait des femmes qui parlaient, enfin, il y avait tout un bazar, et Paul va demander aux femmes de se taire. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire. Il y a 50 interprétations du passage, donc vous imaginez. Je pense qu'à l'époque, il y avait les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, et la femme demandait les explications à l'autre. Alors, vous imaginez ce que ça donne. On fera ça un dimanche matin, vous allez voir, c'est marrant. L'idée, ce n'est pas qu'on ait à se taire, dans le sens où vous n'avez rien à dire, les femmes, ce n'est pas ça. Hein. Mais c'est juste que le culte soit dans l'ordre. Hein. Il faut un respect devant Dieu. C'est vrai qu'on arrive dans l'église, on ne voit pas Dieu, mais on peut quand même prendre le temps de se dire « Dieu est là ». Et en plus, on va le louer, donc je pense qu'il faut avoir un respect. Et ça démontre aussi le caractère de Dieu, c'est qu'il tient compte de notre façon d'agir. Nous, on arrive, on fait les choses comme on a envie, on repart, et on ne s'est pas dit une minute « Qu'est-ce que pense Dieu de ma manière d'avoir agi aujourd'hui ? Alors, c'est valable pour toute la journée, mais tout particulièrement dans le culte. L'Église se doit de refléter celui qu'elle adore. On vient adorer Dieu et on veut lui ressembler. Pour cela, il faut que ma vie, elle honore mon Dieu, que ce soit individuellement, mais aussi collectivement. On veut tous honorer notre Dieu. Et ça demande un vrai respect à son égard. Vous savez, Dieu ne s'en fiche pas de nos retards. Je ne parle pas que les retards, on va dire, dans le temps. Il y a des retards autres. Par exemple, si je ne veux pas grandir avec le Seigneur. Si j'arrive à l'église et que dans mon cœur, de toute façon, je n'ai pas envie de le louer, il le voit aussi. C'est une forme de retard. Je suis en retard, quelque part. Hein. Il sait très bien ce qui se passe dans mon cœur en ce moment. Il sait exactement tout ce que vous êtes en train de penser là. Hein, le pasteur, il a une drôle de cravate aujourd'hui. Hein. C'est pas vrai, elle est belle. Mais c'est bien plus profond. On est bien d'accord. Il sait exactement ce qui se passe dans mon cœur. Et il ne faut pas que je parte comme s'il n'avait rien su. Et c'est ça aussi, respecter Dieu, je crois. Il connaît tout, et Dieu ne s'en fiche pas du tout de ce qui se passe dans son Église. Pas du tout. Il désire l'ordre, parce que vous savez, moi je suis peut-être un peu allemand, c'est peut-être pour ça. Moi j'aime l'ordre, j'aime la discipline, je suis carré. Mais je sais que ça m'apporte la paix. Quand on n'est pas en retard, vous ne faites pas des excès de vitesse, vous vous énervez pas avec le conjoint, etc. Vous êtes à l'heure, vous êtes en paix. Petit conseil, comme ça, je dis, hein. Surtout pour les flashs. ça apporte la paix, et puis ça apporte aussi un bon témoignage. Si les gens rentrent au moment où tout le monde est en train de prier et que « Ah, il n'y a plus de place », etc., ça fiche le bazar. Et là, on n'est plus dans le concept que Dieu veut que ça soit un culte qui soit dans l'ordre. On dérange les gens. Et ça, c'est bien dommage. Hein. Chacun de nous de prendre aussi un respect pour Dieu, mais aussi un respect pour les autres, parce que c'est pas moi qui vous le dis. Pff, si c'était comme moi, c'est Dieu qui nous le demande. L'Église, donc, doit refléter celui qu'elle adore. La discipline aussi dans l'Église, hein, par rapport à cette bonne tenue. Parce qu'il y a une discipline aussi. Elle est nécessaire. Alors, quand on parle de discipline, c'est pas une punition. Mais si quelqu'un est dans le péché, on va pas le laisser faire. À un moment, on va aller lui parler. Et on va le reprendre. Pas pour l'enfoncer, l'écraser. T'as vu comme t'es un pécheur, regarde. Parce que ça, c'est les chrétiens, souvent, qui font ça. C'est pas ça, l'idée. On reprend, et le Seigneur veut qu'on reprenne, mais pour certaines raisons. Mais on a besoin de discipline pour l'intégrité de l'Église, parce que si on apprenait que dans l'Église, il y a des voleurs, des tueurs, ou je sais pas quoi, et qu'on disait ça à l'Église, je sais pas si ça va être un bon témoignage. Pour l'ordre, évidemment, et pour ce témoignage de l'Église locale. Et c'est la responsabilité de tous les membres d'accepter cette discipline, mais aussi peut-être de fois de participer à cette discipline. C'est pas moi qui vous le dis, c'est encore une fois, c'est le Seigneur qui demande cela. Alors l'objectif de la discipline, hein, dans 1 Corinthiens 5, versets 3 à 6, je ne sais pas si vous connaissez, Paul va être choqué parce que l'Église acceptait un homme qui couchait avec sa belle-mère, sans problème. Et il le reprend et dit « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Lui, il ne laisse pas courir. Dès qu'il voit le péché, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. » Ça ne veut pas dire qu'on l'envoie vers Satan. Mais si tu veux faire comme tu as envie d'agir, alors vas-y. Mais là, t'es sous les mains de Satan. « Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce que vous savez, les Corinthiens disaient ils sont très saints, ils sont très, très chrétiens avec tous leurs dons, et etc. Mais en fait, ils acceptaient n'importe quoi. Donc il y a un paradoxe, et Paul est en train de le dénoncer. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Et Paul est très sévère avec cette personne. Il n'accepte pas le péché dans son église. Il le fait avec son caractère, évidemment, mais là, il y a un aspect punitif. Mais ce n'est pas pour punir, mais c'est pour redresser la personne. Il semblerait que cette personne se soit repentie dans 2 Corinthiens. Hein, il semblerait qu'il ait accepté la punition, et qu'il ait demandé pardon, et qu'il ait réglé sa vie. Mais si Paul ne l'avait pas dénoncé, il n'aurait peut-être pas réglé son problème. Et finalement, il serait toujours dans le péché. Il y a un aspect peut-être punitif, mais en même temps, le but, ce n'est pas d'enfoncer une personne dans son péché, c'est de redresser cette personne pour qu'elle puisse à nouveau marcher avec Dieu. Ce n'est pas toujours simple d'écouter les péchés des uns et des autres, de dire non, je ne suis pas d'accord, etc. Ce n'est pas simple, mais il faut le faire, parce que c'est pour le bien de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait des parents ici, quand ils voient leurs enfants faire des pédises, vous dites « Oh, c'est pas grave ». Encore qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Mais c'est qu'on n'aime pas ses enfants. L'aspect punitif est un aspect d'amour. Il y a aussi un aspect dissuasif dans 1 Timothée 5, 20, sur la base de 2 ou 3 témoignages. Et là, ça concerne plutôt les anciens. Il doit être repris et demander pardon devant toute l'assemblée pour son péché. Mais je pense que moi, je n'écouterai pas le témoignage de quelqu'un qui me dit « Ah, l'autre, il m'a dit ça » sur un seul témoignage. J'attends que j'en ai 2 ou 3. Ça m'est déjà arrivé d'aller reprendre des gens parce que j'ai eu plusieurs témoignages derrière. Mais l'aspect est dissuasif. Si on reprend quelqu'un, c'est pour que les autres se disent « j'aimerais pas passer par là ». Ce n'est pas toujours agréable d'être humilié, mais à un moment, il faut le faire. Et tout particulièrement pour les pasteurs et anciens. Hein. Et puis, la discipline, c'est l'expression de l'amour. C'est l'amour discipliné ? Ben si. Ben, vous le faites bien pour vos enfants. Hein. Parce que dans cet amour, il y a cette volonté de restaurer quelqu'un dans le droit chemin. Et tout ça, c'est évidemment basé sur l'amour. Ça se fait avec douceur. Hein. Quand quelqu'un est dans le péché, on a envie de l'enfoncer, on a envie de « Allez, maintenant, je vais me venger de tout ce que tu m'as fait. » Non, non, ça doit se faire avec beaucoup de douceur. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez péché, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur ? Il est venu avec un marteau et vous a tapé sur la tête. Non, on a pu simplement pleurer devant lui et il nous a accepté et il nous a pardonné. Et je pense qu'il faut faire de la même manière. Après, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leur péché, mais là, on va voir tout à l'heure ce qui va se passer. Mais l'expression de cette discipline, c'est aussi l'amour. Et donc, il y a des démarches quand il se passe des choses dans l'Église. Dans Matthieu 18, 15 à 17, il est dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Quelqu'un vous embête, quelqu'un a péché contre vous, il y a une démarche à faire. La première chose, ce n'est pas d'aller crier sur les toits qui vous a blessé. La première chose qu'il faut faire, c'est aller voir la personne qui vous a blessé. Et essayer de discuter avec cette personne. Un aspect privé, on pourrait dire là, je vais aller voir mon frère, voir ma sœur, plutôt que faire des rabots. Et peut-être, ça sera l'occasion de se pardonner les uns les autres. Des fois, on fait du mal sans faire exprès, ou on ne sait même pas. Et c'est l'occasion de demander pardon l'un pour l'autre. Si cette personne ne veut pas écouter, alors qu'elle a péché, qu'elle m'a fait du mal, je vais prendre deux ou trois témoins. On laisse un peu de temps, je pense, parce qu'on n'est pas si pressé que ça, pour que l'autre puisse réfléchir. Et je prends deux ou trois frères ou sœurs, puis on va aller voir cette personne et on va discuter du problème. Espérons qu'elle veuille bien entendre raison. Mais, et là, je l'ai déjà vécu plus d'une fois, la personne ne veut pas entendre raison, alors normalement, généralement, les personnes ont déjà quitté l'église, mais normalement, elle devra se retrouver devant l'Assemblée Générale, devant l'église, donc, et puis elle devra répondre de ce qu'elle est en train de faire. J'ai jamais vu quelqu'un aller jusque-là. Préfère se barrer que d'écouter. C'est bien triste. Le problème, c'est qu'ils vont dans notre église après et ils recommencent. Ça, c'est un peu problématique. Mais normalement, si quelqu'un va jusqu'au bout, à ce moment-là, la dernière démarche, c'est l'exclusion. On te demande de plus venir à l'église, tout simplement. Voilà. Parce que c'est pas la peine de venir. Si tu es en train, comme l'autre, avec sa belle-mère, c'est pas la peine de venir et de chanter Alléluia et tout ça. Ça sert à rien. Tu es en train de te fiche de Dieu, tout simplement. Mais le but de Paul là-dedans, c'est pas de cette démarche, c'est pas d'exclure la personne. C'est qu'une fois qu'elle est à l'extérieur, elle se met à réfléchir. Ah, c'était bien quand même quand j'étais à l'église, quand je péchais pas, etc. Et normalement, avec un peu d'espoir, elle va revenir. Elle va demander pardon au Seigneur et elle va revenir dans l'église. Et évidemment, on l'accueillera avec un temps évidemment d'examen, on va dire, mais on l'accueillera avec joie, tout simplement. Mais voilà, une démarche. Quand quelqu'un a péché dans l'église, c'est pas de lui sauter dessus, c'est pas de le massacrer, il y a des démarches à faire, avec, je pense, beaucoup de temps, beaucoup de prières, beaucoup d'amour pour cette personne, et non pas du jugement et des rabots. Donc voilà, il y a de la discipline dans l'église locale, je suis désolé pour vous, et c'est très bien, parce que ça aide à conserver la paix dans cette église, comme Dieu est un Dieu d'ordre, l'église se doit de vivre parfaitement ordonnée. Dieu n'a jamais dit qu'on doit être tous parfaits, parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Même pas moi. Mais il y a quand même une limite aussi. Les ordonnances de l'Église. Troisième chose qu'on peut étudier dans cette ecclésiologie, l'ordonnance, c'est un ordre. Dieu nous donne des ordres. Il en a donné deux en particulier. Et souvent, on peut aussi parler de sacrement, en parlant d'ordonnance, parce que le vrai mot, c'est sacrement. Mais comme les catholiques utilisent mal ce mot, on a préféré parler d'ordonnance. Un sacrement, parlons définition, ça vient du latin sacramentum, mot qui pendant la période classique avait deux sens principaux en fait. Pour le moment, ça signifiait un terme légal pour identifier la somme d'argent déposée par des adversaires lors d'un procès, somme qui devait être consacrée, le mot consacré, par le perdant à un usage sacré. Il y a aussi un aspect militaire pour désigner la formule d'engagement prononcée par un nouveau soldat. Donc le sacrement a une origine, on va dire, au départ. Et tout doucement, la notion de rite sacré combine les deux idées et devient un engagement sacré. Un sacrement, c'est quelqu'un qui se consacre, tout simplement. Le mot sacrement, continue l'auteur, contient donc l'idée de rendre sacré, de consacrer à un dieu, alors là, il parle en général, ou à un usage sacré. Peu à peu, dans l'histoire, le mot est attaché aux ordonnances du Seigneur, qui sont le baptême et la Sainte Cène. On va les voir tout à l'heure, mais le Seigneur nous a ordonné deux choses, le baptême et la Sainte Cène. C'est pas une proposition. Je me suis un peu intéressé à ce mot sacrement dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si ça vous intéressait, dormez pendant ce temps si vous ne voulez pas. Mais... Par exemple, Pline, qui était en 112 environ après Jésus-Christ, dit au sujet des chrétiens de la Bithynie qu'ils se liaient par un sacramentum. Mais c'était, je fais ça, c'est juste pour qu'on comprenne que le mot sacrement qu'on entend aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est à l'origine. Pour lui, c'était dans le sens d'un engagement. Il s'engageait avec Christ, avec les uns et les autres, et s'engageait à ne commettre aucun crime. Qui a une idée de sacré, mais aussi de s'engager. Tertullien, fin du 2e et début 3e siècle, donne les premières indications de l'adoption de ce mot comme un terme technique désignant le baptême, l'eucharistie, donc la selle, et peut-être d'autres rites de l'Église chrétienne, mais ne leur attribue aucune valeur sacramentelle, parce que les catholiques attribuent quelque chose de sacré à ce qui se passe là. Il fait seulement le rapprochement avec le terme d'engagement du soldat, donc on est toujours dans la définition originale. Saint Augustin, par sa définition du sacrement comme le signe visible d'une grâce invisible, en fait, si on va en parler tout à l'heure, mais quand je me fais baptiser, il ne se passe rien du tout, sinon que je suis mouillé, Il y a des symboles qui sont là, mais je démontre publiquement ce qui s'est passé intérieurement lors de ma conversion avant. Hein. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Hein. C'est le signe visible d'une grâce qui était invisible en moi. Lui, il va limiter son application, ce qui n'empêche pas d'autres plus tard à tordre en fait le sens. Le Concile de Trente, hein, alors on est au XVIe siècle, confirme et amplifie la définition de Saint d'Augustin et ratifie la décision du Concile de Florence, hein, c'est à apprendre par cœur tout ça pour la semaine prochaine, qui limite le nombre des sacrements à 7. Et là, évidemment, ils ont commencé à dériver complètement. Alors c'est l'Église catholique, hein, ils ont le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, la consécration sacerdotale et le mariage. Évidemment, on n'est pas d'accord avec au moins 5 de ces trucs. J'appelle ça truc. Parce que je suis pas d'accord. Puis les réformateurs hein, retiennent le terme sacrement, mais ils en distinguent les marques nécessaires suivantes. D'abord, ils voient que c'est quelque chose que le Seigneur a institué. Deuxièmement, la demande expresse adressée par le Seigneur à ses disciples de les observer. Hein, ils savent, ils disent que Jésus nous l'a demandé, mais ils disent aussi que les disciples doivent obéir à cela. Et troisième chose, leur rapport intime avec sa parole, de manière à devenir les expressions de la pensée divine, les signes visibles d'actes divins. Voilà un petit peu comment, au fur et à mesure, ce mot « sacrement » a été transformé pour arriver à ce qu'on entend aujourd'hui dans certaines églises, et on n'est pas du tout d'accord avec cela. Le sacrement, ou l'ordonnance, c'est une idée de s'engager. C'est évidemment quelque chose de sacré pour nous, mais on l'entend dans la définition du mot. C'est un engagement sacré que je prends vis-à-vis de Dieu, tout simplement. Le sacrement ne communique aucune grâce. C'est ce que dit l'Église catholique. C'est pour ça qu'on baptise des enfants. C'est pour ça qu'on fait certaines choses. Comme si, parce que je suis baptisé enfant, je suis sauvé. C'est ça qu'ils veulent faire, en fait. On sait très bien que le baptême, c'est qu'un simple symbole. Il ne se passe rien. Je ne baptise personne s'il n'est pas né de nouveau. Donc, venez pas demander le baptême tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Mais il ne communique pas de grâce. C'est Jésus-Christ qui apporte ses grâces. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie de nos péchés. Le signe n'a en lui-même aucun pouvoir, contrairement à ce qu'ils disent, et ne peut pas changer, et ça, c'est démontré. Vous pouvez faire toutes les confirmations, les machins que vous voulez à l'Église catholique, ça ne vous changera pas. Par contre, la grâce de Dieu, ça change toute la vie. Et c'est là on voit bien que le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus efficace que tous les petits cérémonies que certaines personnes veulent faire. Mais le Seigneur nous a demandé deux choses, au moins. Donc le baptême. Dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit « Allez », et là le mot c'est pas « quand vous aurez un peu de temps » ou « quand vous serez décidé ». C'est un impératif, il faut y aller, il faut le faire. On prend le temps, hein, les gens viennent au fur et à mesure, mais c'est un ordre. Le baptême, on l'a dit, c'est une identification du chrétien quand il est plongé dans la mort de Jésus-Christ. Et généralement, j'essaie d'aller vite pour pas que vous vous noyez. Et on ressort et on s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. C'est dans Romains où on voit cette comparaison. Donc c'est juste un symbole. J'accepte de mourir avec Christ et puis j'accepte aussi de ressusciter à cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi que c'est un engagement. Pour ceux qui sont mariés, ils ont compris ce que c'est un engagement. Pas au bout d'un an de mariage, mais au bout de 20 ans, 30 ans, vous avez compris ce qu'est l'engagement. C'est exactement la même chose avec Christ. Si je veux me faire baptiser, je démontre à tout le monde que je veux m'engager avec le Seigneur. Alors évidemment, beaucoup de gens veulent se faire baptiser parce qu'ils ont compris ça. Mais vous savez, ceux qui se sont engagés, ils ont des hauts, ils ont des bas, et ils ont des chutes, ils ont des hauts et des bas, et personne qui est comme ça, hein, linéaire et qui monte tout le droit. On a tous nos problèmes. Mais le fait qu'on soit engagé ne veut pas dire qu'on va être toujours parfait. Mais on va essayer de faire le maximum pour le suivre, pour lui obéir. Et puis quand on lui désobéira, ben merci Seigneur, on peut demander pardon, tout simplement. Et ça fait partie aussi de cet engagement. La Bible ne dit pas que le baptême sauve. Il y a des textes qui pourraient nous faire comprendre, mais quand il y a des textes qui sont un peu obscurs, il faut aller le voir à la lumière de tous les autres. Hein. Le baptême ne sauve pas, il mouille, tout simplement. Il réjouit aussi, je pense, l'Assemblée. C'est, comme on l'a dit, c'est un témoignage extérieur. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a quelque temps, Jésus-Christ est rentré dans ma vie. J'ai accepté que je suis pécheur. J'ai accepté que j'avais besoin d'être sauvé parce que ce péché me conduit en enfer. Et j'avais besoin, évidemment, de quelqu'un qui me sauve, et c'est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, si ça s'est passé, ben je vais le démontrer tout simplement par le baptême. Et donc c'est aussi une belle journée de joie pour l'Église, hein, de voir quelqu'un qui a envie de s'engager avec le Seigneur. Et la Bible nous demande de baptiser par immersion. Plusieurs arguments, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais plutôt que chercher les arguments habituels, j'ai regardé dans ce que faisait l'Église primitive, et quelqu'un écrivait « Bienheureux ceux qui, mettant les espérances dans la croix, sont descendus dans les eaux ». Ils sont descendus, là on est au 1er siècle, 2e siècle, hein. Donc on baptisait par immersion. Nous descendons pleins de péchés et d'impuretés dans l'eau, mais nous remontons chargés du fruit. C'est un symbole, évidemment. Un peu plus tard, en l'an 165, ceux qui sont convaincus et qui croient, qui ont promis, sont conduits par nous à un endroit où il y a de l'eau. Ceux qui désirent être ainsi baignés, nous les conduisons au bain d'illumination, comme ils appelaient ça à l'époque. Mais, et la Bible, et le mot baptême lui-même, veut dire être immergé. On ne va pas jeter deux, trois petites gouttes d'eau sur la personne. On va immerger complètement la personne pour que justement, vous savez, on n'enterre pas les morts à moitié avec les pieds qui dépassent. Hein. Oui, si on est mort vraiment en Christ, on est immergé totalement et puis on ressort pour symboliser cette résurrection. Et c'est pourquoi nous, les baptistes, hein, on veut absolument baptiser selon ce que dit la Bible. Le mot le dit, mais Jean-Baptiste, si vous regardez bien, allait toujours à un endroit où il y avait beaucoup d'eau et c'est là où il baptisait à ce moment-là. Donc la Bible nous dit que ça se fait par immersion. L'ordre aussi de prendre la scène, 1 Corinthiens 11, 23, on l'avait lu la semaine dernière, je crois. Je vais juste lire le début. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, etc. etc. » Le Seigneur nous demande, nous ordonne de prendre la scène, d'abord dans le but de commémorer la mort et la résurrection et le retour aussi de Jésus-Christ. Hein. C'est un moment de souvenir, parce que si on ne le faisait pas, ben on ne se souviendrait pas, tout simplement. C'est un moment de communion, nous dit 1 Corinthiens 10, 16. Hein, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? C'est un moment de communion fraternelle quand nous partageons la scène. C'est un signe de la nouvelle alliance, nous dit aussi Paul, qui a été faite par le sang de Christ. Les aliments n'ont rien de magique, hein, ils ne se transforment pas en Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantation chez les catholiques. Et chez les protestants, il y a un autre truc encore. Mais c'est que du pain. Et c'est qu'une coupe, hein. Il n'y a rien qui se passe, c'est simplement des symboles. Le pain qui nous rappelle que le corps de Christ a été brisé sur la croix, hein, à cause de nos péchés. Puis cette coupe qui nous rappelle le sang qui a été aussi versé. La Bible ne parle pas de vin, souvent j'entends vin, mais la Bible n'en parle pas. Chaque église va faire comme il a envie, mais ça nous rappelle ce sang qui a été versé et qui purifie de tout péché. Moi je pense que c'est formidable d'avoir la scène parce que ça nous permet de nous arrêter de temps en temps, de nous remettre en question, puisqu'il y a un moment d'examen, comme dit 1 Corinthiens 11, un moment où on s'examine réellement, où on prend les choses au sérieux, hein, parce que la Bible nous dit que si on prend la scène à la légère, ben Dieu ne rigole pas avec nous. Donc, un bon moment d'examen, parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de le faire chez soi. Il faudrait, évidemment, mais là, on est pris, là, on fait attention. Voilà deux ordres que le Seigneur nous demande de mettre en pratique, et c'est pas moi qui vous le demande, c'est le Seigneur qui demande de le faire. Donc si vous n'êtes pas encore baptisé et que vous êtes né de nouveau, on reprend. Non ? Il faut y réfléchir. Hein ? Et vous ne dites pas que je ne suis pas prêt. Personne n'était prêt quand il s'est fait baptiser. Je ne serais toujours pas prêt aujourd'hui hein, s'il fallait le faire, mais ça fait 20 ans. Mais il faut y réfléchir parce que c'est un ordre que le Seigneur demande. Quatrième chose qu'on voit c'est, dans cette ecclésiologie, c'est la mission de l'Église locale. Alors là, il y aurait énormément de choses à dire, mais j'ai vraiment résumé. Dans Éphésiens 4, 11 à 15, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, mais ça s'est passé, les autres comme prophètes, ça s'est passé aussi, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, évidemment. Dieu veut le perfectionnement de ses saints. Un saint, c'est un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est particulier, on est bien d'accord. Il veut le perfectionnement individuel, mais aussi collectif, hein. Des fois, en tant que chrétien, on se dit « Maintenant, ça fait 20 ans que je suis chrétien, j'en ai appris des choses, j'en ai vécu des choses, puis ben voilà, on va vivre sur ses acquis. Hein. Bon, les autres, ils sont loin, donc ça va, je peux rester là où j'en suis. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit mature d'abord, et qu'on devienne de plus en plus mature, spirituellement, évidemment. Il dit que tous soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus. Ce n'est pas que le pasteur ou les responsables. Tous j'insiste, tous. Tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on soit tous d'accord à un moment sur ce qu'on pense dans cette foi, dans la façon de le vivre, mais aussi dans cette confession de foi et dans la connaissance de Jésus-Christ, dans sa connaissance de la parole. Si le Seigneur nous le demande, ça veut dire que c'est
possible.
Possible. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Et on l'est rarement convaincu d'ailleurs. Mais c'est possible. Et le Seigneur nous demande de le faire. Hein. Il veut qu'on grandisse, parce que sinon, eh ben, comme beaucoup, on va être trompé, emporté à tout vent de doctrine. Dès que je suis sur Internet, j'entends un gars qui il était dans le ciel, il a vu Jésus, waouh, c'est génial. Moi, je veux faire comme lui, etc. Et puis, et voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui partent dans ce délire, hein, de plus en plus. La parole n'a jamais dit ça. Hein. Mais en fait, le fait de vouloir me perfectionner, c'est tout simplement aussi vouloir me préserver, de ne pas me faire tromper. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans le ciel et ils vont dire, mince, on m'a trompé. Mais ils sont aussi responsables de ça. On peut ouvrir la Bible. Hein. Quand quelqu'un me dit quelque chose, moi, avant que je vais d'abord lire dans la Bible, et je vais te dire oui ou non après. Mais si on ne lit pas la Bible, si on fait juste confiance aux gens sur Internet, alors là, ben, on va aller dans n'importe quoi. C'est de la paresse, bien souvent, de lire la Bible, hein, ou d'étudier la Bible. Deuxième mission de l'Église locale, c'est de préserver la vérité. Dans Timothée 3,15, il dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église locale se doit de préserver la vérité, parce qu'elle est une colonne. Et une colonne, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pleinement. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Elle se doit de pouvoir défendre la Bible justement, pas comme on a envie, mais de défendre ce que le Seigneur nous a transmis. Et vous savez, ce n'est pas la responsabilité du pasteur seulement. Parce que si vous voulez tous avoir une autre pensée, c'est moi qui lire. Hein. Eh oui, tout simple. Hein. Et ça arrive bien souvent, parce que l'Église d'un coup ne veut plus écouter la parole de Dieu et puis a décidé de faire comme elle a envie. Ben, le pasteur, il peut être responsable comme il veut, mais il ne peut plus rien faire dans ce cas-là. Ou les responsables de l'Église ne peuvent plus rien faire. C'est ma responsabilité à moi d'apprendre à connaître la parole de Dieu, être capable aussi de la défendre et dire oui ou non à telle ou telle chose que je peux entendre ou doctrine. L'Église se doit de transmettre aussi cette vérité parce qu'il y a des enfants, il y a des générations qui vont suivre, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans l'Église et on est censé, alors évidemment c'est la responsabilité de certaines personnes, mais dans les témoignages, dans les discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres, on est censé transmettre aussi cette vérité. Si on transmet n'importe quoi à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas l'Église qu'il y aura demain. Déjà, ça me fait peur aujourd'hui. Mais c'est ma responsabilité. Mais si je ne sais rien, qu'est-ce que je peux transmettre? Si je ne connais rien, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants? On peut donner le minimum, mais des fois, on a besoin d'aller un peu plus loin. Il y a des fois des enfants qui sont plus loin que leurs parents grâce à l'école du dimanche. Ça, c'est triste quand même, quelque part. Mais à nous de nous responsabiliser et de comprendre que nous avons cette tâche-là d'apprendre pour transmettre ensuite. Puis une autre mission, c'est l'évangélisation. Hein. On a lu tout à l'heure, allez. Ce n'est pas donné qu'aux disciples, c'est donné à tout le monde. C'est un impératif, c'est un ordre que le Seigneur nous demande. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Souvent, on n'est pas très motivé, mais si vous avez compris qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont en enfer, il fait chaud là-bas. C'est triste d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Eh bien, on commence à avoir une passion pour ces âmes perdues. On les aime. On prie pour eux. On témoigne s'ils veulent bien écouter. Mais voilà, on les aime, comme le Seigneur les aime. Et ça me motive. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit que nous avons une tâche d'ambassadeur, ambassadrice de Christ, pour aller annoncer la réconciliation. On peut dire aux gens, voilà, tu es pécheur et tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est notre rôle de le dire. Là où je suis, dans mon boulot, mes amis, ma famille, là où le Seigneur me met tout simplement, évidemment, si l'autre veut bien écouter. Alors, il y a mille et une méthodes, mais quelqu'un disait, il vaut mieux agir que plutôt de prier. Et je vous lis son histoire. Hein. C'est un certain Arthur Blessid qui raconte l'histoire d'une église qui décida de se réunir un samedi après-midi pour prier pour le réveil. Environ 40 hommes se sont retrouvés assis en cercle pour prier. Le premier a prié pendant 5 ou 6 minutes sur un ton très religieux, en employant tout le vocabulaire approprié. Le second fit de même, puis le troisième, le quatrième et le cinquième. Puis il n'y avait aucun sens de la présence de Dieu. Arthur, hein, gémissait en lui-même et se disait « Quelque chose ne va pas ici ». C'est alors qu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre et remarqua qu'il y avait un restaurant de l'autre côté de la rue. Se rendit conduit à se lever et s'y rendre, ce qu'il fit. Il se tint à la porte d'entrée et fit ce que sans doute seul lui pouvait faire. Il s'exclama « Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille être sauvé ? Vous imaginez, vous allez à Carrefour, il y a quelqu'un qui veut être sauvé. Une serveuse répondit immédiatement, oui, moi. Oui, moi. Alors il parla avec elle, lui présenta l'évangile et la conduisit au Seigneur. Puis il lui demanda depuis combien de temps elle travaillait dans ce restaurant. Elle répondit depuis 2 ans. Elle demandait si elle connaissait des gens de l'église d'en face et elle répondit, oh oui, ils viennent ici tout le temps et surtout le dimanche midi. Alors elle lui demanda-t-il si quelqu'un lui avait déjà parlé de Jésus-Christ ou l'avait invité à venir à cette église. Elle répond, non, pas un seul. Et pourtant ces braves gens, juste en face, priaient pour le réveil. Arthur retourna dans la réunion de la prière, ils en étaient au 18e hein, qui priaient, et leur dit, vous pouvez vous arrêter de prier, Dieu nous a montré ce qu'il faut faire. On peut passer, il faut prier, je ne dis pas qu'il ne faille pas prier, mais il faut s'y agir. C'est bien de prier, vous pouvez prier en long et en large. Ces pauvres chrétiens n'avaient jamais annoncé l'évangile alors qu'ils allaient voir ces gens tous les jours. Et ça, c'est bien triste quelque part. Agir, quand le Seigneur le permet, évidemment, c'est communiquer tout simplement la bonne nouvelle à celui qui veut bien l'entendre. Mais je pense qu'il faut aussi prier. Il y a les deux qui vont travailler ensemble. Donc la mission de l'église locale, c'est la maturité. Maturité. Devenir mûr. On n'aime pas grandir, hein, généralement. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande tout simplement. Et c'est la maturité de tous ses membres. Et parce que ses membres sont matures, forcément, ils ont envie de transmettre l'Évangile. Et une cinquième chose, c'est la destinée de l'Église. On a parlé au début. L'Église a un avenir, heureusement. Et son avenir, évidemment, c'est l'enlèvement par son chef. C'est, j'espère, le plus grand espoir pour vous. L'apôtre Paul espérait que l'enlèvement de l'Église se passe pendant sa vie. Il a été déçu, hein, puisque 2000 ans après... On n'est toujours pas enlevé, mais à un moment, quand le Seigneur l'a décidé, il viendra et d'un seul coup, il prendra toute son église. Et il restera quelques personnes, peut-être le dimanche matin, dans l'église, je ne sais pas, j'espère que non en tout cas. Et nous, nous allons rencontrer celui en qui nous avons cru, que nous n'avons pas vu, hein, que nous acceptons par la foi, mais à ce moment-là, nous serons avec lui pour l'éternité. Ce moment est imminent, nous dit la Bible. Il n'a pas donné de détails précis comme le retour de Jésus, où on peut à peu près imaginer certaines choses. Mais là, ça peut être maintenant, demain, dans 3 jours, 4 jours, 10 000 ans, j'en sais rien. Mais il s'agit d'être prêt. Parce que si je suis enlevé dans un moment où je suis en plein péché, c'est un peu triste quelque part de se retrouver devant Jésus comme cela. On ne sera pas parfait, ça c'est clair. Mais il s'agit d'être prêt. C'est ne pas s'accrocher aussi à tout ce que l'on a, tout ce qu'on possède. On doit être prêt. De toute façon, vous n'aurez pas le choix si vous êtes sauvé. Vous êtes enlevé. Donc, et on l'a dit tout à l'heure, ne pas confondre avec le retour de Jésus. Ça concerne que l'Église. Quand Jésus va revenir, c'est pour la bataille d'Armageddon. Et c'est là où il va faire une grande bataille, une grande guerre contre tous ceux qui s'opposent à lui. Et surtout l'Antichrist. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Venez me voir tout à l'heure si vous voulez un peu plus d'explications. Et puis une fois que l'Église est enlevée, elle va se retrouver devant le tribunal de Christ, on en avait parlé il y a quelques semaines. Ça ne remet pas en question notre salut, ce tribunal, ça remet simplement en question ce que nous avons fait dans notre vie de chrétien. On sera évalué, dans les partiels, ça nous parle peut-être plus. Et Dieu regardera, voilà, je t'ai donné des dons, je t'ai donné une vie, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait pour moi, tout simplement. Qu'est-ce que tu en as fait. Et de là, on recevra des récompenses, plus ou moins grandes, on verra bien. Il y aura aussi des couronnes, mais ça, tout le monde le recevra parce que c'est destiné à tous ceux qui sont sauvés. Et dans l'Apocalypse, on voit ces 24 vieillards qui prennent leur couronne et qui la jettent au Seigneur parce que c'est lui qui mérite absolument quelque part. Peut-être qu'on le fera tous ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sera récompensé pour la manière dont nous avons vécu sur la terre. Alors vous allez dire, oh bon, je n'ai pas trop travaillé, comme ça j'aurai une petite récompense, c'est pas grave, je suis quand même un peu récompensé. Je ne sais pas ce que c'est que les récompenses. Donc il ne faut pas non plus jouer comme cela, à négocier. Et puis la destination finale de cette église, après le tribunal de Christ, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau, c'est dans Apocalypse 19:7, un grand repas, c'est l'agape, mais avec toute l'église. Heureusement qu'il n'y a pas le ménage à faire après. Mais vous imaginez toute l'église réunie. Bonjour Paul, bonjour Pierre, bonjour Timothée, ça va? Ou alors peut-être tous les chrétiens, Luther et d'autres, etc. Vous imaginez tous les chrétiens réunis pour un repas. Je ne dis pas les cuisiniers, Mais surtout, ce qui sera formidable, c'est qu'à la tête de la table, il y aura Jésus-Christ. On sera assis à la même table que Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous imaginez ça. J'espère être assez prêt, parce que j'ai 2-3 questions. On aura le temps après. Mais voilà, c'est ce qui nous attend, les noces de l'agneau. Pendant ce temps, sur la terre, c'est la tribulation, tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. C'est un vrai massacre qui se passe à cause de l'Antichrist. Hein. Mais nous, là, on sera avec le Seigneur dans la paix. Ça sera un jour de fête, juste avant que Jésus-Christ va revenir, justement, à Armageddon, et pour condamner cette terre. Ça va être un bon moment. Moi, j'ai hâte de voir, surtout le repas. Qu'est-ce qu'on va manger ? Je ne pense pas que ça soit le plus intéressant. Moi, c'est surtout de voir Jésus-Christ. Ouh, ça va faire drôle, hein. Et puis ensuite, la Bible nous dit, hein, en résumé, nous allons demeurer... Enfin, là, il n'y a pas que l'Église, c'est tous les croyants, hein, parce que les noces de l'agneau semblent seulement concerner l'Église, mais tous les croyants de toute l'époque, c'est-à-dire Abraham et tout cela, qui sont sauvés aussi par la foi, eh ben, on va tous partager l'éternité avec Dieu dans la gloire, pour toujours. Cette nouvelle Jérusalem qui va descendre, et cette nouvelle terre qui va être construite, tout va être complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui. J'espère qu'il y aura encore des ordinateurs. Hein, moi, j'aime bien les ordinateurs, mais bon, on verra bien. Mais tout va être nouveau, tout va être glorieux, tout va être magnifique. Et pendant tout le reste de l'éternité, on va célébrer Dieu. Alors, on ne va peut-être pas chanter tous les jours. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais de toute façon, comme on sera parfait, on va chanter juste. Ouais. On va avoir envie de chanter. Ouais. On va être sincère dans nos chants. Ouais. Etc, etc. Il n'y a que des « ouais » en haut. Hein. Mais... on sera surtout content d'être enfin auprès de notre Dieu. C'est pour demain, hein, tout ça. Hein. Ça va vite, la vie, hein, vous savez. Il faut qu'on ait cette espérance dans notre cœur et la joie de cela. L'Église a de beaux jours devant elle. Alors, on a nos petits défauts, nos petites difficultés dans l'Église, mais arrêtez de regarder ça, regardez ce qui nous attend. Ça, c'est chouette. Ça, c'est beau. Et ça, ça donne envie de nous réjouir d'avoir une telle espérance. Pour terminer... l'Église, donc, en résumé, hein, de ce que je viens de dire, doit ressembler à Dieu. On ne serait jamais comme Dieu. On doit essayer d'y tendre, en tout cas, par sa discipline, par sa justice, par sa sainteté, par l'ordre que nous devons avoir. L'Église doit aussi obéir à son chef. C'est Jésus le chef, hein. C'est pas moi. C'est Jésus. En baptisant, en acceptant le baptême, en partageant la scène, en nous souvenant de ce que Jésus a fait, c'est obéir tout simplement au Seigneur. Après, il y a plein d'autres choses auxquelles il faut obéir, évidemment, hein. L'Église doit défendre la saine doctrine, et ça, là je martèle, parce qu'aujourd'hui c'est ce que l'Église ne fait plus, parce qu'elle ne connaît plus la saine doctrine, parce qu'elle s'en fiche. On est prêt à accepter tout et n'importe quoi, et ben voilà, l'Église est en train de s'effondrer de plus en plus. Mais moi je pense surtout à nos enfants, à la génération qui suit, hein, si on peut leur transmettre les bonnes choses pour qu'elles peuvent défendre leur foi ensuite, je crois que c'est évidemment le but. L'Église travaille à annoncer l'Évangile aussi, jusqu'au moment où ben, elle sera enlevée. Mais chacun a son champ, chacun a mis exprès un endroit pour pouvoir parler à ceux qui veulent bien vous écouter de la parole de Dieu. Faites-le. Priez avant pour que ce soit le moment, peut-être. Hein. Priez pour que vous ayez l'occasion de le faire dans votre famille. Ce n'est pas toujours évident, je sais. Mais priez avant et le Seigneur peut-être ouvrira des portes pour cela. Et puis surtout, on l'a dit, l'Église se réjouit de son avenir avec Jésus. Plus de péché et simplement la gloire éternelle. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour cette formidable idée qu'est l'Église, cette famille, ce peuple qui veut tout simplement t'honorer. Voyons que tu ne veux pas que nous fassions n'importe quoi non plus dans cette Église, notre façon de nous comporter, notre façon de faire. Tu nous as donné des pistes, Seigneur, pour agir selon ta volonté. Apprends-nous tout simplement à conserver ces pistes aujourd'hui, à peut-être même nous améliorer, hein, Seigneur. On n'est jamais loin d'être parfait. Et nous prions aussi pour ceux qui voudraient peut-être se faire baptiser, qui hésitent, que tu leur montres que c'est un ordre et que tu les accompagnes dans, ben pourquoi pas, dans ce baptême. Merci aussi pour ces moments de scène où nous voulons pas le faire machinalement, mais vraiment nous souvenir de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Quand nous prenons le temps d'y réfléchir. Et merci, Seigneur, pour ce salut. Merci pour cette Église, qu'elle puisse grandir en maturité, comme tu nous le demandes. Pas se dire « ça sera demain », mais ça commence aujourd'hui, Seigneur, qu'on ait envie de lire ta parole, qu'on ait envie de prier, de grandir vraiment avec toi, Seigneur, pour te réjouir et surtout pour nous faire du bien aussi, Seigneur. Merci pour cette Église qui va témoigner aussi autour d'elle de ta grâce, de cette réconciliation que tu veux avec chacun. Merci aussi pour l'avenir que tu nous promets de passer avec toi et ça va être absolument formidable. Seigneur, merci pour l'Église et que nous puissions faire comme toi tu nous demandes de faire tout simplement. Et aide-nous à être de bons modèles, aide-nous à être de bons chrétiens. En Jésus-Christ. Amen. Amen.